Grain de sel,
l'émission de la rédaction.
Grain de sel.
Bonjour, c'est Frédéric. Je vous propose d'écouter un reportage réalisé le vendredi 11 mars à Nanteuil-Audouin, où l'association Histoire et Archéologie de Nanteuil-Audouin, avec le concours de la mairie de Nanteuil-Audouin, nous proposait une reconstitution en 3D du château de Nanteuil-Audouin. Présentation de Régis Moreau, le président de l'association Histoire et Archéologie de Nanteuil-Audouin.
Bien, bonsoir à tous. Donc après cette présentation, on souhaite vous montrer le travail réalisé depuis à peu près 2 ans par une équipe d'Histoire et Archéologie de Nanteuil-Audouin sur le château disparu de Nanteuil. L'image que vous avez sous les yeux avec l'animation représente le château tel qu'il devait être au début du XVIIIe siècle, à peu près à la période de la mort de Louis XIV. Alors ce projet a été initié en 2019. Il a pour objet d'étudier toute l'histoire de ce château depuis sa fondation au XIIe siècle jusqu'à sa disparition dans la Révolution française. Cette étude a également un pan archéologique. Cette étude vise à redonner aux Nanteuillais un site disparu, vraiment le rendre à la population, rendre au public, d'où cette démarche de reconstitution. Alors cette démarche a été rendue possible par le travail d'une équipe d'historiens et d'archéologues qui a pour volonté de donner les résultats réguliers de ces travaux. C'est-à-dire que, bien souvent, il y a des sites passionnants qui sont étudiés pendant des décennies et, finalement, les recherches n'aboutissent pas rapidement, ce qui est logique, mais il n'y a pas non plus de point d'étape. Ce que nous souhaitons vous proposer, c'est le premier point d'étape, la première proposition de restitution d'un site qui a totalement disparu, ou presque. Alors, pourquoi le choix d'une reconstitution en 3 dimensions? Eh bien, pour une raison évidente, c'est quelque chose qui marque. Nous sommes dans une civilisation de l'image, du média, et vous avez devant les yeux une image inédite. Alors certes, vous avez reçu les vœux de l'association, vous avez pu en voir une petite ébauche, encore fallait-il pouvoir penser que c'était ce château disparu. Nous avons donné très peu d'énigmes et nous avons souhaité faire découvrir en première cette reconstitution. Alors l'objectif de la 3D, c'est également de valoriser les nouvelles technologies que l'on peut utiliser, même à l'échelle d'un petit territoire comme le nôtre. Ce château, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'il a disparu, il devait être peu important, bien c'est tout le contraire. C'est un site qui est d'un intérêt historique majeur pour notre histoire régionale, à l'échelle non pas de la Picardie, puisqu'il s'inscrit plutôt dans le cadre de l'échelle de l'Île-de-France, large, culturelle. Et cette 3D permet aussi de remettre un petit peu en cause les habitudes de travail des historiens et des archéologues. Et au cours de cette présentation, je vais vous présenter, vous faire visiter le château, mais on va aussi vous présenter la manière dont on a travaillé et ce que ça permet de faire avancer, de poser comme question. Ce projet a été basé sur l'étude de sources nombreuses, et parmi les sources nombreuses, il a fallu faire un tri. Nous avons donc demandé à la société Aquilon en 2019 de réaliser une étude archivistique pour nous permettre de faire le tri dans ce que l'on savait de l'histoire de ce château. Donc je vais passer la parole à Nicolas Millot, qui est le président d'Aquilon, qui n'a pas eu la possibilité, étant donné le contexte sanitaire, de présenter son travail à Nanteuil, je vais pas lui donner non plus ce soir assez de temps pour le faire, mais juste pour vous mettre un peu l'eau à la bouche pour un prochain rendez-vous.
Bonsoir à tous. Tout d'abord, bravo pour ce début de travail qu'on aperçoit là. Donc effectivement, on m'a demandé de faire court. Hein. Je peux faire court. Pardon. L'idée, c'est qu'on a effectivement étudié le château de Nanteuil du point de vue historique il y a maintenant près de 2 ans et qu'avec le Covid, on n'a pas eu l'occasion de vous en présenter les résultats oralement, en tout cas pas en conférence. Ça a fait l'objet en tout cas d'un rapport d'étude dont l'objectif était à la fois de faire le point sur ce qui avait déjà été écrit sur le château, puisque tout un tas d'études avaient précédé la note, bien entendu, et il ne s'agissait pas de les nier, mais il s'agissait parfois de trier le bon grain de livret et surtout d'essayer de référencer toute une partie des données qui avaient été écrites par différents chercheurs à différents niveaux et à différentes époques. Ensuite, il s'agissait d'essayer de proposer un petit complément ciblé. Et en l'occurrence, on a essayé particulièrement de mieux comprendre la passation du site de Nanteuil ou des sites du château de Nanteuil à travers le temps. Et donc ça a donné l'objet de la rédaction d'un rapport, vous voyez la première de couverture, qui n'est pas bien sexy, hein, mais le château est plus intéressant, mais qui a mérité d'exister. En l'occurrence, ce travail-là, pour le moment, reste inédit, et l'objectif, c'est bien entendu d'en publier une partie bientôt, et puis de vous le présenter. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a eu la chance de bénéficier de plusieurs fonds d'archives, parce qu'effectivement, le château de Nanteuil a une histoire riche, il est même très souvent un peu sous-estimé ou mal aimé. C'est probablement, du point de vue politique ou administratif, la deuxième capitale du Valois, on pourrait dire au Moyen-Âge, en tout cas avant le rattachement des châtellenies Pierrefonds, Verberry et Pétisy. Au XIIIe siècle, c'est probablement un des châteaux les plus importants du territoire. Il répond d'ailleurs au château de Crépy en Valois, qui est non pas le château que vous connaissez à Crépy, mais la partie disparue du château que vous connaissez à Crépy. Et du point de vue architectural, il était probablement un édifice de pointe. Toujours est-il qu'il souffre pendant la guerre de Cent Ans et qu'il est rebâti, reconstruit en grande partie après la guerre de Cent Ans sur une base de château médiéval, mais avec des moyens et surtout avec une esthétique renaissance. Et puis le château que vous avez vu juste avant, lui, il est un peu le troisième grand château. Et évidemment, encore une fois, il bénéficie de la structure médiévale et des réaménagements renaissance, mais il est le fruit d'un rhabillement classique au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc quelque part, étudier un site comme celui-là, c'est étudier un oignon. Et là, on vous présente aujourd'hui la reconstitution visuelle de la pelure la plus en surface, en tout cas le dernier état avant destruction et la Révolution. Mais il y aurait beaucoup de débats et beaucoup de travail à faire pour essayer de proposer des restitutions des états antérieurs qu'on connaît moins. La restitution qui vous est proposée là, elle se fait notamment sur la base d'une série de plans du XVIIIe siècle, de plans et de dessins d'élévation, c'est-à-dire, si vous voulez, de dessins de façade, ce qui fait que la restitution est très très vraisemblable. Alors on pourrait toujours discuter ou débattre du fait qu'un château n'est jamais parfaitement propre et que les tours ne sont jamais parfaitement régulières. Enfin, globalement, l'allure que vous découvrez ce soir est vraiment l'allure qu'on peut lui imaginer effectivement au début du XVIIIe siècle. Et il faut simplement ne jamais oublier qu'une partie de ce qui justifie les curiosités de son plan, à commencer par le fait que pour un château classique, il présente par exemple des tours circulaires, ce qui est assez rare dans un château classique où on aurait tendance à préférer des pavillons carrés, c'est précisément qu'il a en fait hérité des tours circulaires de l'état médiéval, par exemple, ou de l'état de la Renaissance. Donc on a vraiment un château qui s'est constitué par morceaux, qui a souffert, qui a été reconstruit. Et l'étape qui vous est présentée ce soir, c'est l'étape de son apogée, en tout cas de son apogée esthétique. Voilà, moi je m'arrête là parce que je parle trop, mais il y aurait beaucoup à dire. En tout cas, si on vous fait des présentations et on va venir, on vous invite à venir à découvrir parce que c'est un dossier riche. Merci beaucoup.
Merci Nicolas. Donc l'étude a été réalisée par sous la direction de Morgane Minard, qui est présent, de Marie Raymond, de l'équipe d'Aquilon en règle générale, qui est une équipe soudée, donc ils travaillent à plusieurs. Nous avons utilisé leur travail, bien entendu, nous utiliserons leurs compétences encore. Nous avons la chance d'avoir un groupe de travail très, très soudé, très homogène dans cette association. Et il est vrai que les compétences des uns et des autres se complètent très bien. Et c'est ce que vous allez découvrir avec, pour la première fois, donc un premier aperçu de la visite virtuelle que l'on souhaite créer. Donc je vais vous faire visiter virtuellement le château de Nanteuil-Baudouin, tel qu'il était vers 1710-1715. Comme Nicolas l'a dit, Ah oui, j'ai oublié de vous parler des sources. Excusez-moi, les sources, il l'a dit aussi. Je vais juste vous les présenter. Nous avons la chance aux archives départementales de Beauvais d'avoir un dépôt de plans qui sont les plans du château de Nanteuil, même si un plan d'Hermenonville s'était glissé dedans, on l'avait reconnu, on l'avait trouvé et on l'a extirpé. Nous avons des plans assez fiables du château à l'époque. Ici, vous avez un plan de masse du rez-de-chaussée du château. Donc, vous voyez le découpage des pièces, des différentes pièces. Alors, on est en train de chercher l'origine de ces plans. Probablement un architecte de très, très haut niveau. On a des pistes de noms assez étonnantes, mais ce ne sont que des pistes. Nous avons également des représentations des élévations, c'est-à-dire ici, vous avez le château que vous commencez à reconnaître tel qu'il se présentait avant 1720. C'est une mention qui apparaît sur le plan ici, puisque la galerie qui est ici a été détruite en 1720, volontairement. Je vous en parlerai tout à l'heure. Nous avons donc les différentes façades, et puis nous avons des gravures. Celle-ci, si vous êtes nanteuillais, vous l'avez souvent croisée. Elle est dans, je vais dire, pratiquement tous les foyers des anciens nanteuillais, des anciennes familles. C'est ce qu'on l'on pensait être une des gravures du début du XVIIIe siècle. Il s'avère que, a priori, c'est plutôt une des dernières vues du château au XVIIIe siècle. Celle-ci est plus ancienne, 1684. Et elle a un intérêt majeur pour nous, c'est la représentation en couleur. Le château est connu pour être un château de briques et de pierres couvert d'ardoises, ce qui nous donne du blanc, du rose et du bleu. Une autre gravure qui nous a été confiée, dans la copie nous a été confiée par les archives du musée Condé-Chantilly, une gravure de très belle qualité qui représente l'arrière du château. Vous êtes assis ici. Voilà, la maison du temps libre est ici, sur le parterre, à l'arrière du château. Et les deux pavillons du château bâtis en 1630 sont ceux que vous avez probablement croisés sur votre chemin en venant. C'est les deux héritiers du château encore visibles, parfois d'ailleurs confondus avec le château lui-même. Alors je vous propose donc cette visite guidée. D'un château qui, comme Nicolas l'a dit, est à l'origine un château médiéval qui est bâti au début, dans le premier tiers du XIIe siècle, sur les hauteurs de Nanteuil. Alors, bien entendu, un château médiéval, un château fort, pour faire simple, est bâti sur les hauteurs. Le principe du château, c'est d'avoir bien sûr une fonction défensive. On reconnaît l'aspect défensif, ou en tout cas les héritages de l'aspect défensif, avec d'immenses fossés qu'on appelle aussi douves sèches, il n'y a pas d'eau à l'intérieur, on verra pour quelle raison. Des tours circulaires, quatre grosses tours circulaires qui donnent cet aspect massif et défensif. Un château, c'est bien évidemment le centre du pouvoir seigneurial, le centre du pouvoir politique, nous y reviendrons. Mais ce château du XIIe siècle, château fort, a été ruiné durant la guerre de Cent Ans, au début du XVe siècle, a priori dans les années 1416, d'après les textes. Cette forteresse ruinée, on n'a pas d'informations sur l'état de la ruine. On ne sait pas s'il est rasé, en très mauvais état, ou simplement très très abîmé. On n'a aucune information, mais c'est le même site qui va être choisi pour élever un château Renaissance. Au début du XVIe siècle, vers 1525, l'héritière des seigneurs de Nanteuil, Marguerite de Broye, épouse un grand personnage du royaume, une grande famille d'origine lorraine, la famille de Lenoncourt, et elle épouse Henri de Lenoncourt. L'histoire avait été racontée par Jean-Marc Vasseur dans un numéro d'Istéa. Si vous ne l'avez pas encore, il est en vente, bien évidemment, mais vous l'avez tous. Qui raconte la vie de château à cette époque-là, avec l'animation qui règne dans un château. Ce château, étant situé sur la route de Paris à Villers-Cotterêts, a abrité plusieurs séjours de François Ier et de son fils Henri II lorsqu'il se rendait à leur chantier de Villers-Cotterêts. La famille de Lenoncourt donne une nouvelle esthétique à ce château, c'est ce qu'expliquait Nicolas, le passage de la période médiévale à la période Renaissance. Approchons-nous un petit peu, et une des caractéristiques de ce château, jusqu'en 1720, c'est son petit châtelet d'entrée de pierre de taille et sa galerie de chaque côté de briques et de pierres. Ce petit châtelet est vite surnommé le donjon. Il ne semble pas être pourtant particulièrement protégé pour un donjon. Mais bon, il abrite un pont-levis dont le système est un système de bascule avec deux immenses perches. Flèches qui entrent ou sortent du mur. Donc ces grandes saignées sont clairement représentées sur les gravures comme celles que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc c'est un détail dont on est certain. Les fossés sont très impressionnants. Vous avez des fossés secs, donc des fossés sans eau, ce ne sont pas des douves remplies d'eau. Il n'y a pas d'eau sur la hauteur du Beauregard sur laquelle nous sommes, il n'y a pas de source a priori. L'alimentation en eau n'est donc pas suffisante pour alimenter d'immenses douves de ce genre. La présence de soupiraux ici à ces endroits-là trahit la présence des caves, d'un réseau de caves qui abrite les offices, les lieux de stockage du château, donc des espaces de communs, des espaces de service. Voilà pour ce qui est de l'extérieur, de l'entrée dans ce château. On va franchir le châtelet et entrer dans cette cour. La partie qui est au fond de la cour que vous avez face à vous est certainement la partie la plus ancienne du château, puisque plusieurs textes nous parlent de cette aile qui est bâtie sur le fond du château, c'est-à-dire le bout du château, mais également sur les fondations du château. Vous avez un logis qui est décrit au XVIIIe siècle par un moine du prieuré juste en face, donc il y avait tout le loisir pour observer ce château, comme un logis irrégulièrement bâti. C'est pas du tout une critique, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas un ordonnancement très classique avec une symétrie parfaite. On a ici une tourelle d'escalier, ici une autre, les deux n'ont pas la même taille. Vous avez également une galerie ici qui est probablement postérieure au bâtiment puisqu'elle semble avoir été bâtie après 1529, la date de 1529 figurant sur un des piliers du bâtiment et étant caché peut laisser envisager le fait qu'en fait la galerie soit apparue après. Si on regarde, si on s'approche de cette galerie, on voit qu'elle est richement décorée. Elle est décorée à la mode de la Renaissance, c'est-à-dire avec des bas-reliefs qui rappellent des motifs antiques ici. Et puis elle est ornée, alors c'est un petit peu dans la pénombre ici, d'un H et d'un M, qui figurent, d'après un moine bénédictin de Nanteuil, H et M, Henri et Marguerite. Henri de Lenoncourt, Marguerite de Broye, donc les bâtisseurs de cette aile. Si on s'approche un petit peu, qu'on veut regarder autour de nous, nous avons à droite de l'entrée, donc face à vous, ici, une aile qui a été bâtie est terminée en 1594 par une autre famille que les Lenoncourt, puisque les Lenoncourt ont vendu le duché un peu contraint à la famille du duc de Guise, des personnages importants du royaume qui ont beaucoup reçu à Nanteuil, qui ont même reçu la veille de leur sacre les différents rois de France, fils d'Henri II, qui avaient été assassinés. Donc il a eu trois fils qui sont tous devenus rois de France, et deux sont passés par Nanteuil pour être placé sous la protection des ducs de Guise avant le sacre. Nous sommes dans la période des guerres de religion. La famille qui a bâti cette aile que vous avez ici est la famille Schoenberg, qui succède à la famille des ducs de Guise, et qui bâtit cette aile, ou alors qui relève une aile en mauvais état qui existait déjà avant, puisqu'on avait quatre tours probablement très anciennes, donc le dessin du château n'a pas dû, au sol, entre guillemets, beaucoup évoluer. Mais ils vont construire une aile assez symétrique. Et de l'autre côté, quelques années après, la veuve du comte de Schoenberg qui avait bâti la première aile achève la seconde aile, celle que vous auriez eue à votre gauche en entrant, Et vous voyez une certaine symétrie avec la précédente et un style qui est différent de la galerie du fond. Vu de la galerie, en regardant vers l'entrée, voilà la cour d'honneur. On a peu d'informations sur le revers de la galerie qui n'est jamais représenté. Donc on fait la proposition de la représenter tout en pierre et sans briques, au vu des textes qu'on a pu étudier. Encore une fois, à chaque fois qu'on vous montre une image, c'est une proposition. Évidemment, les choses vont évoluer, rien n'est définitif, nous avançons et nous repérons quelques éléments de détail qui ne correspondent pas ou qui correspondraient mieux s'ils étaient représentés d'une autre manière. Redescendons dans la cour et franchissons la galerie pour nous retrouver non plus côté cour, mais côté jardin. Alors une petite halte sous l'arcature, alors on voit mal, c'est un peu sombre, le dessin de la voûte d'arête qui est la galerie en fait. Ce dessin, c'est une voûte avec des briques et des pierres. Alors pourquoi avoir représenté cela comme ça? Nous nous sommes inspirés de deux éléments essentiels. Le premier est un élément local. C'est la même voûte d'arête que dans les écuries du château. Et les écuries existent toujours. Elles sont privées, mais nous avons eu la chance de pouvoir y entrer. Certains visiteurs ont eu aussi la chance de pouvoir y rentrer lors des visites guidées. Deuxième possibilité, à la même époque, on bâtit à Paris la place des Vosges et on a exactement le même dessin. L'influence est celle-ci. Ça peut correspondre au niveau architectural, évidemment. Peut-être que ce n'était pas tout à fait la même chose. C'est encore une fois une proposition. Allons prendre l'air dans les jardins. Donc, nous sommes sortis par une porte qui donne côté jardin et nous avons franchi un autre pont qui, cette fois-ci, ne semble pas être un pont-levis, puisqu'il ne se lève pas, mais qui semble rentrer sous le niveau de sol de l'autre. C'est ce qu'on appelle un pont roulant. Alors, c'est plus trop la mode à cette période-là, mais ça a beaucoup été utilisé dans les périodes plus anciennes. Il n'est pas impossible que ce soit un vestige du château ancien. Encore une fois, c'est une hypothèse. Vous pouvez découvrir ici une des autres tours rondes qui se trouve à l'arrière. Et vous apercevez, encore une fois, les fossés impressionnants, assez importants. Vous avez également un petit bout de pelouse qui vous donne une idée du paysage que vous auriez pu rencontrer. On va prendre un petit peu de recul. Nous voici au fond du jardin haut de Nanteuil. Donc la maison du temps libre est sur cet espace-ci. Nous regardons dans le mauvais sens. Il faudrait tourner les chaises pour être dans le même alignement. Vous avez une grande galerie qui vient ici, qui est bâtie ici pour couper des nuisances de la basse-cour et de la ferme du château qui est ici. Une grande galerie avec 23 fenêtres et une porte bien sûr à son extrémité. C'est une galerie qui succède à une galerie plus ancienne, qui permettait de relier le château à une chapelle très ancienne, la chapelle Saint-Georges, dont on cherche toujours la trace. Et une fois qu'il y a eu une chapelle dans le château, il n'a plus été nécessaire de se rendre à l'extérieur. Cette galerie est donc tombée en désuétude, et on en a rebâti une autre au début du XVIIIe siècle. Vous apercevez ici, dans l'axe de la sortie, un bassin de forme octogonale qui trahit la présence de tout un système hydraulique pour alimenter en eau le jardin haut. Je vous parle de jardin haut puisqu'il existe aussi un jardin bas qui est tout au fond ici, qui est l'actuel parc des écoles. Lui qui est alimenté en eau par la Nonette et ce qu'on appelle à Nanteuil les eaux sauvages. Une autre perspective vous permet de vous situer un petit peu, parce que même si nous étudions depuis plusieurs années le château de Nanteuil, nous avons toujours des difficultés à bien le positionner quand nous sommes dans Nanteuil, étant donné le bouleversement incroyable qu'a subi l'urbanisme de Nanteuil, avec une volonté de rayer de la carte ce château. Ce château était, au XVIIIe siècle, la propriété du prince de Condé, qui était considéré comme l'anti-révolutionnaire numéro un, le chef de la contre-révolution, et donc possédant Chantilly et Nanteuil, ces châteaux ont été vendus et notamment le château de Nanteuil, a été vendu avec obligation de combler les fossés. On comble les fossés en démolissant le château. Alors, à l'origine, il s'agit, comme l'a écrit Morgane Guinard dans l'étude, de faire d'abord d'abattre les tours, symbole bien sûr seigneurial, les fossés et les tours. Mais vu la taille des fossés, vous imaginez bien que les tours ne suffisent pas, donc il n'est pas impossible que la quasi-totalité du château y soit passée. Ce qui nous laisse envisager qu'en fouillant un fossé, on pourrait trouver beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Vous avez une vue du parterre ici. Vous avez une vue des deux pavillons encore en élévation aujourd'hui. Ici, le pavillon du brigadier des chasses, donc responsable des chasses du prince de Condé, et le pavillon du jardinier. Alors, si je ne m'abuse, le jardinier, c'est pas celui qui fait le jardin, comme vous et moi, hein. C'est l'architecte des jardins, c'est le responsable des jardins, il est au moins aussi important que l'architecte du château lui-même, enfin du logis. Donc on a deux pavillons qui existent toujours, qui sont deux propriétés privées, mais qui aujourd'hui sont traversées par une voie qui part d'ici. Ici, vous avez l'ancêtre de la rue Gambetta, l'ancienne rue Royale, route Royale. Et ici, vous avez une rue qui s'appelait autrefois la rue Verte et qui s'appelle aujourd'hui la rue des Pavillons. Elle traverse ici en dévers, puisqu'ici, on est en contrebas du château. Ici, vous avez une terrasse, un mur assez important dont il reste une belle partie. Et cette rue des Pavillons, ici, avec un stationnement pour la maison du temps libre, passe à travers le château et bouleverse complètement l'image qu'on est, le positionnement du château aujourd'hui. Même le dessin des parcelles, si vous regardez le cadastre, on ne peut plus lire le château. Ce que l'on peut encore lire, en revanche, c'est le parc qui est derrière, qui lui a été comme fossilisé en devenant le parc du Poney Club. C'est l'objectif de notre prochain projet. On veut étendre bien sûr notre étude au parc et au jardin, pour bien vous faire imaginer ce que pouvait être ce château. Si on revient vers l'esplanade d'entrée, en longeant l'aile gauche, on aperçoit ici, on devine la chapelle. On voit une baie ornée d'un vitrail. C'est la chapelle, on a sur les plans l'emplacement même de l'hôtel. On a une allée de service qui permet, sans passer par les appartements, de traverser d'une tour à l'autre pour la domesticité sans entrer dans le château. Et on a toujours ces immenses fossés. De l'autre côté, côté ferme, nous avons également une allée de service qui passe d'une tour à l'autre. Et puis étonnamment, beaucoup moins d'ouvertures, beaucoup moins de fenêtres. On a un niveau qui est quasiment aveugle. Ce niveau est aveugle pour une double raison. La première, on est côté nord ici, donc l'isolation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, donc on a moins de fenêtres généralement côté nord, mais surtout on est côté ferme, on donne sur la passe-cour, donc c'est pas forcément le spectacle qu'on veut montrer à ses hôtes.
Vous écoutez un reportage réalisé à Nanteuil-le-Haudouin le vendredi 11 mars, où il y avait une reconstitution en 3D du château de Nanteuil-le-Haudouin, proposée par l'association Histoire et Archéologie de Nanteuil-le-Haudouin, ainsi que la mairie de Nanteuil-le-Haudouin.
Une petite vue encore de cette même façade pour vous donner un autre aperçu, et la complexité aussi de l'imbrication des bâtiments. Et ici, une vue en longueur des fossés pour vous donner une idée de leur taille et donc du volume qu'il a fallu avoir pour les combler. Vous avez donc ici l'extrémité de la galerie que vous aperceviez dans les jardins à l'arrière, ici, qui prend naissance auprès de cette tour ici. Donc évidemment, sur un aspect défensif, c'est complètement nul, mais il n'y a plus de nécessité défensive. Le volume du château, l'emprise du château est énorme sur l'urbanisme nantelier. On aurait dû vous mettre une Twingo à côté pour vous donner une idée de ce que ça représenterait aujourd'hui. C'est un château de très très beau volume qui est entouré d'un jardin haut, qui est entouré d'un parc et De l'autre côté, au niveau du parc des écoles, un jardin bas avec un potager. De plusieurs côtés ici, on aperçoit un verger et des prés. Tout ça, ça fait partie du château. Tout ça, c'est le château. Ça fait 30 hectares. 30 hectares dans Nanteuil aujourd'hui, c'est-à-dire une part importante du PMU. Le plan d'urbanisme serait à revoir complètement si on rebâtissait le château. C'est pour ça qu'on a préféré une reconstitution en trois dimensions en réel. On aurait dû exproprier beaucoup trop de monde dans Nanteuil pour vous permettre de revoir le château en vrai. Voilà, donc, le château de Nanteuil n'a plus disparu. Il est réapparu. Il est la propriété aujourd'hui de tous ceux qui sont intéressés, attirés par le patrimoine. Le château de Nanteuil, c'est, je vous l'ai dit, une bâtisse, une cour, des jardins, une ferme, autant de choses que nous avons encore à étudier et à vous proposer. Pour la fin de l'année 2022, nous envisageons déjà de vous montrer une nouvelle étape. Ici, c'est la première étape. Et cette première étape n'aurait pas été ce qu'elle est sans le travail phénoménal de Nicolas Dubois, qui, avec les studios Marotte à Bondreville, on fait du local, mais on fait surtout de la qualité, nous propose cette restitution. Donc voilà pour la visite virtuelle. Il y a tellement d'autres choses à dire que vous aurez certainement l'occasion d'y revenir. Je vais passer la parole à Nicolas pour la partie sur la création, la genèse des images que vous avez là.
Bien, bonsoir. Donc pour ma part, je suis l'artisan maçon de cette restitution et je vais vous présenter un petit peu les différentes phases de la création de cette restitution 3D. Alors en essayant de ne pas rentrer dans trop de détails trop techniques, parce que c'est quand même assez technique, et simplement en vous présentant les grandes étapes qui sous-tendent donc cette restitution. Alors vous l'aurez compris, une restitution, c'est la création d'une sorte de maquette en trois dimensions, une maquette virtuelle, et qui essaie d'être la plus fidèle possible aux informations dont on dispose à un moment donné. Et cette maquette, dans la mesure où elle est en trois dimensions, et une fois qu'elle est terminée, on peut en faire le tour assez facilement, on peut la survoler, on peut zoomer sur certains détails, ou parfois même, on peut rentrer à l'intérieur quand les intérieurs ont été modélisés. Alors c'est un travail qui est très long. La restitution du château de Nanteuil, qui est un château assez imposant, eh bien, on a pris presque 5 mois, ce qui représente entre 700 et 800 heures de travail pour aboutir aux images que vous avez pu voir ce soir. Comment dire, pour lesquelles on n'est pas certain de certitude, rien que vous cherchez. Et comme ça, on conserve une trace et rien ne dit qu'au fur et à mesure de l'avancée de recherche, eh bien, on n'arrivera pas à trouver des éléments plus précis afin de pouvoir préciser ces différents éléments. Au niveau métrique, on est une précision de l'ordre du millimètre, alors toujours par rapport au plan. Précision de l'ordre du millimètre, mais aussi imprécision de l'ordre du millimètre. Imprécision, je dis ça parce que en modélisant certains bâtiments, selon certains points de vue, je me suis rendu compte que un bâtiment qui devrait toucher un autre bâtiment qui a été modélisé selon un autre point de vue, et bien non, au final, il manque 1 ou 2 mm, ou il y a 1 ou 2 mm en plus. Alors, à quoi est-ce que cela est-il? On peut raisonnablement penser que ces imprécisions s'étalent sur plusieurs siècles. Ça commence au 18e, lorsque les plans ont été réalisés. Il y a d'abord eu les relevés qui ont été faits, puis la conversion pour la mise à l'échelle des plans, et puis enfin, le tracé du dessin lui-même, on peut facilement imaginer que quelques millimètres se soient perdus ou soient venus se rajouter durant ces étapes. Il y a ensuite l'étape de la numérisation des plans qui a été faite au niveau des archives départementales. Là encore, est-ce que c'est la même méthode qui a été utilisée pour numériser tous les plans, le même matériel, la même personne, le même jour? Est-ce qu'il y a eu ensuite des redimensionnements de cette image? Ce sont encore une fois des facteurs qui peuvent créer des distorsions au final. Et enfin, à mon niveau, au niveau de la création 3D, eh bien, je vous rappelle que ce n'est pas toujours simple de comprendre trait, à l'intérieur du trait ou au centre, d'autant que les traits de dessin n'ont pas toujours la même précision. Ça, c'était donc pour la précision électrique. À côté de ça, il existe pour moi deux autres types de précision. La première, à tenir aux textures qui ont été utilisées pour le château. Malheureusement, on n'a pas produit du château et les plans dont on dispose ne font pas du tout état des matériaux utilisés. On a bien quelques gravures comme on l'a vu tout à l'heure, mais il a fallu faire quelques recherches en parallèle sur l'architecture briques et pierres en Picardie à l'époque de la construction du château pour bien comprendre comment ces deux matériaux avaient été utilisés pour chacune des façades. Et ça nous a permis de passer correctement, en tout cas on espère, les différentes textures sur le château. Toujours concernant les textures, je vous expliquais tout à l'heure que ça consistait à plaquer les photos sur les différentes surfaces. Les deux papillons qui existent encore, malheureusement, sont trop petits pour avoir permis de constituer un ensemble de photos suffisamment conséquent pour pouvoir texturer toutes les surfaces du château sans donner l'impression qu'il y ait une répétition. Il a donc fallu chercher au niveau local, le plus restreint possible, et bien d'autres sources à photographier de façon à pouvoir texturer le château. J'ai donc employé des photos de Monteuil, des photos du Prieuré de Crépy, des photos des contreforts de l'ancienne église de Montreville. Donc, avec cette approche, je veux dire, plus on est une échelle locale, plus l'aspect des matériaux utilisés risque d'être ressemblant aux matériaux qui ont été utilisés pour le château. Et enfin, dernier point, en termes de précision, c'est une précision qui va concerner plutôt le vécu du château. Je trouve personnellement que beaucoup des restitutions 3D que l'on peut voir sont un peu plus propres, plus lisses. Sont toutes lisses, parfois répétitives, et que ça ne retranscrit pas réellement ce qu'était l'aspect visuel de ces latines. Donc, durant la phase de texturage, et donc, je me suis attaché un petit peu à dégrader, à salir les textures, de façon à essayer de rendre compte de l'empreinte du temps. Donc, ça se traite par quoi ? Ça se traduit par des fêtières en boue qui s'oxydent, qui coulent un petit peu sur la peinture, des mousses qui viennent s'y déposer, ou encore des gouttes de pluie en fait, qui viennent tacher le bas des murs, ou les passages répétés des gens à certains endroits qui vont finir par user ou salir davantage certaines parties de surface. Voilà en gros ce que je pouvais vous en dire. C'est, j'espère, en tout cas, une façon pour moi de faciliter la projection que vous pouvez avoir à l'intérieur de cette restitution, en tout cas une projection de votre imagination, afin de faciliter justement cette visite, cette découverte virtuelle. Je repasse la parole à Régis, qui va vous parler un petit peu de la suite, qui sera donnée à son travail.
Donc, faites à 800 heures de travail ou plus. Je ne dis pas le nombre de SMS, de textos, de mails, de réunions, de rencontres, d'échanges. Ce travail n'est pas terminé, loin de là, c'est qu'une première étape. Avant de vous présenter la suite, vous dire qui a travaillé vraiment sur la question. Nous avons présenté l'équipe d'Aquilon qui a fourni de la matière première de très grande qualité pour la construction de ça. Nous avons Pierre Tandé qui a travaillé à la restitution avec ainsi un œil d'enseignant qui pourra être utilisé par la jeunesse locale et peut-être régionale, européenne, internationale. Jean-Marc Popineau, Jean-Louis Bernard et Vincent Bartier qui travaillent sur tous nos projets de toute façon. Voilà. Donc on a été une équipe de 5. En plus, de ceux qui nous ont aidés sur l'aspect administratif, parce que c'est très lourd de monter un projet comme ça, de rencontrer les partenaires publics qui peuvent nous accompagner. Parmi ces partenaires, il y a la mairie de Nanteuil, bien entendu, qui nous finance et qui nous facilite les choses. C'est elle qui nous accueille ce soir, d'ailleurs, et qui nous offrira un petit pot. La communauté de communes, bien entendu, qui, dans sa politique culturelle et touristique, voit d'un très bon œil ce que nous pouvons apporter à Nanteuil-le-Haudouin. Alors, ce n'est qu'une première étape, parce que nous entendons pour vous faire visiter le château de manière interactive dès la fin de 2022, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de manipuler la 3D, vous arrêter à tel endroit et d'avoir une explication sur ce que c'est que cette partie du château, à quoi ça servait, à quoi ça correspond. Ce sera une visite virtuelle qui sera accessible depuis chez vous, mais, et on y tient énormément, qui sera plus complète lorsque vous viendrez à Nanteuil, soit pour une visite guidée comme celle qu'Aquilon a organisée ces dernières années, qui pourront être illustrées de documents qu'ils auront en plus de ce que vous pourrez avoir, bien entendu. Et puis, vous aurez, avec un smartphone, une tablette, la possibilité de scanner un code qui vous permettra de savoir que ici, à la Maison du Temps Libre, vous êtes sur les pelouses. Vous avez le droit de marcher, hein, de vous asseoir. Mais vous vous retournez, vous avez le château dans cette perspective-là et vous verrez peut-être la première perspective vers ce qu'on appelait Dammartin, Montagny, qui éblouissait les visiteurs dans beaucoup, beaucoup de textes. Vous aurez la possibilité de faire le tour du château selon les voies publiques, hein, vous n'allez pas rentrer chez les gens, mais voilà, vous aurez aussi la possibilité d'être au pied du mur, dans le sens où vous pourrez, en penchant votre tablette ou smartphone, voir l'envergure, l'emprise du château, la taille, la hauteur. Voilà pour fin 2022. Pour 2023-2024, nous envisageons la modélisation des parcs et jardins. Je vous ai parlé de 30 hectares, alors évidemment, ce ne sera pas 30 hectares, mais vous aurez des points, des spots en bon français, où vous pourrez vous poster, avoir une explication sur le jardin à la française, sur l'adduction d'eau, l'alimentation en eau, sur un territoire où il n'y a pas d'eau, enfin, sur un plateau où il y a très peu d'eau, les mécanismes. On parlait du pont-levis, on a une petite idée en tête pour une animation sur le pont-levis. Entre autres, voilà, des petites choses comme ça. On veut que le projet grandisse et qu'à chaque étape, vous en soyez les premiers témoins, afin d'en parler, de valoriser le territoire. Et cette commune dans laquelle je suis arrivé il y a 19 ans, on m'a dit, à part Jean-Marc qui est là-bas, on m'a dit, oh, tu sais, à Nanteuil, il n'y a pas grand-chose. Donc, il y a énormément de choses, tout n'est pas facile à voir. On vous offre la possibilité d'en voir un petit peu, on espère que ce qu'on vous montre là, la modélisation, n'est qu'une des facettes, en plus de l'étude archéologique et de l'étude historique qui continue, pour vous permettre peut-être un jour de rentrer dans les caves du château, qui sont toujours en place. Les soupiraux que vous avez en façade, vous voyez au fond des fossés, sont les soupiraux d'aération des caves, qui sont visitables pour l'instant pour nous, mais qu'on ne désespère pas de vous faire visiter, voire même d'organiser à l'intérieur des animations ponctuelles pour expliquer le site, le lieu, la vie à telle ou telle époque. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Merci d'être venu. Je passe la parole à Oriane Grosse, qui est l'adjointe au maire, qui nous aide, qui nous accompagne dans ce projet.
Merci, monsieur Morin. Féliciter cette association qui remet un petit peu de valeur sur ce patrimoine, sur Nanteuil-le-Haudouin et en particulier également sur Valois. Je suis également conseillère communautaire de la communauté de communes du Valois, donc je la représente également ce soir puisque Pierre n'a pas pu venir. Mais on est très content d'être partenaire pour la mairie et de soutenir ce beau projet et on continuera comme ça autant que faire se peut dès qu'on pourra le faire. Voilà, merci et merci aussi à Aquilon. Qui nous a aussi été très présent lors des dernières portes ouvertes et des journées du patrimoine, pardon, excusez-moi, que j'ai pu faire avec vous et j'ai découvert certaines choses de Nanteuil et ça vaut vraiment le détour. Donc je vous invite vraiment à suivre cette association également parce que on y apprend pas mal de choses. Merci beaucoup, et puis voilà, un petit peu pour tout le monde. Merci.
Donc on est à votre disposition pour d'éventuelles questions, pas des questions pièges, on a préparé notre exposé. Encore une fois, je vous demande d'en parler autour de vous, de bien expliquer une chose, c'est qu'en histoire, rien n'est jamais définitif. Si ça se trouve, dans 10 ans, ce qu'on fait est quasiment périmé. Donc on en profite, on montre, on avance. Et surtout, si ça se trouve, hein, quand on vous présentera la visite virtuelle, on vous dira, bah, en fait, le pont-levis n'était pas du tout comme ça, cette couleur-là, c'est pas ça, ce bâtiment n'était pas là à cette période-là. Je m'en excuse pas par avance, parce que les professeurs n'ont jamais tort, mais je vous préviens qu'il y aura des changements. Je ne sais pas lesquels. Merci à tous et bon petit pot. Ça fait du bien enfin de se retrouver après 2 ans de période difficile. Merci.
Nous venons d'assister à une reconstitution du château de Nanteuil-le-Haudouin, donc proposé par l'association Histoire et Archéologie de Nanteuil-le-Haudouin et la mairie de Nanteuil-le-Haudouin. Cette présentation de leur constitution en 3 dimensions du château disparu de Nanteuil-le-Haudouin avait lieu le vendredi 11 mars à la Maison du Temps Libre. Régis Moreau, bonsoir.
Bonsoir.
Donc Histoire et Archéologie de Nanteuil-le-Haudouin, un sacré boulot que vous avez fait là, hein, c'est impressionnant.
Bah, c'est un travail de passionné, mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, donc on a des gens qui sont des historiens, des archéologues, qui sont là pour nous permettre d'avancer dans notre idée de rendre le patrimoine accessible à tous dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire des belles technologies, des belles images et surtout beaucoup de précautions en expliquant bien que la recherche avance, la recherche est en cours et ce qu'on propose n'est pas définitif.
Oui, c'est ce qu'on a bien compris, c'est que dans 1 an ou 2 ans, la reconstitution peut être différente, voilà, c'est ça.
Alors on espère qu'elle soit différente dans le sens où on puisse remonter le temps aussi, c'est-à-dire proposer non pas simplement le château tel qu'il était au début du XVIIIe siècle, mais pourquoi pas le château à l'époque de la Renaissance, voire avec des indices architecturaux et puis archéologiques, le château tel qu'il était au Moyen-Âge. Donc on a beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'idées, et on a aussi beaucoup de gens pour nous encourager. Cette association est très ouverte, il n'y a pas besoin d'être historien ou archéologue pour en faire partie.
Comment est né le projet en fin de compte ?
Alors ce château, on le voit, il y a une page Wikipédia sur le château, qui a le mérite d'exister, qui apporte certaines choses. On a des écrits, on a des informations, beaucoup d'archives, et surtout la volonté de montrer qu'un édifice immense peut avoir complètement disparu sans qu'on s'en émeuve plus que ça. C'est vraiment un site majestueux qui a disparu. Et il a une histoire intéressante aussi depuis sa disparition, parce qu'il a été rayé de la carte, rayé de l'urbanisme. Et donc, il serait intéressant de savoir pourquoi.
30 hectares, donc c'est impressionnant. Quoi, sur Nanteuil-le-Haudouin, comme vous disiez tout à l'heure pour le PLU, ça changeait vraiment tout ce qu'ils ont maintenant. Quoi, hein.
Ça change complètement la configuration du site. Alors après, il y a quand même des espaces connus des Nanteuillais et aux alentours, comme le Poney Club ou le Parc des Écoles, qui sont des espaces qui attirent toujours, mais qui en fait étaient des espaces du château, des espaces de promenade réservés à une élite, évidemment. Aujourd'hui, cette élite n'a plus accès à ça. Par contre, tout à chacun peut y avoir accès, et essentiellement, avec le travail qu'on a, avec les progrès qu'on fait, on va pouvoir en plus permettre des visites, des promenades dans un espace qui, c'est vrai, il faut le dire, n'est pas très attractif, le centre de Nanteuil, pour quelqu'un qui n'a pas les notions de patrimoine aussi large qu'on peut imaginer, ben, ne peut pas se douter de tout ce qui reste encore à voir.
Oui. Et donc, si j'ai bien compris, donc dans les douves, on pourrait peut-être encore faire des fouilles et puis trouver peut-être plein d'éléments du château, c'est ça, si j'ai bien compris?
Bah, l'espoir est permis. Après, oui, évidemment, les espaces qui sont accessibles, les fenêtres archéologiques sont limitées, puisque, oui, bien entendu, il y a des propriétés, des jardins, des espaces publics, des voiries. On ne peut pas fouiller n'importe où, on ne peut pas fouiller n'importe quoi et n'importe comment. Fort heureusement, tout ça est encadré. Mais on a bon espoir de pouvoir faire quelques sondages pour avoir un ordre d'idées de ce qu'on pourrait trouver dans ces douves.
On peut remercier quand même la personne qui vous a aidé pour le 3D. C'est impressionnant, quoi. Cette reconstitution, on s'y croyait là. Hein.
Alors, à l'origine, il s'agit d'un des membres de notre association, un passionné de Gondreville qui travaille beaucoup sur son village et qui est un professionnel, hein, des studios Marotte à Gondreville. Il faut avouer qu'on a la chance de le compter parmi nos adhérents, donc il a certainement encore moins compté ses heures, mais c'est un véritable passionné et d'un très très grand sérieux.
Et donc ça a peut-être donné des idées à d'autres villages aux alentours qui ont peut-être des recherches à faire de ce style.
À chaque fois qu'on cherche, on trouve. Donc oui. Nous avons déjà... nous sommes intéressés à différents sites et c'est vrai que tout est possible, tout est imaginable. La 3D permet beaucoup, beaucoup de choses. En plus, ça évolue très, très vite. Les rendus sont de plus en plus rapides et vraiment assez étonnants. Je pense que les spectateurs, les invités de ce soir en ont pris plein les yeux et c'est qu'un début.
Donc Régis, moi je vous invite à venir à la radio pour nous donner plus d'infos. Hein, n'hésitez pas. De toute façon, vous êtes un habitué.
Voilà. Je suis un habitué, mais je ne suis pas venu depuis un bon moment, donc ce sera avec un très grand plaisir.
Merci Régis. Vous venez d'écouter Régis Moreau, le président de l'association Histoire et Archéologie de Nanteuil-Audouin. Madame Oriane Grosse, bonsoir.
Bonsoir.
Donc la ville de Nanteuil-Audouin est très à la pointe là. En 3D, reconstitution du château, c'est impressionnant. Hein.
Oui, alors on va redonner les blasons quand même à l'association. Hein. Ouais. Nous sommes partenaires effectivement de ce beau projet, puisque ça nous redonne la valeur du château de Nanteuil, ça redonne le patrimoine également de Nanteuil. Mais l'association et les partenaires de cette association, c'est eux qui font le plus gros du travail. Nous, on essaie juste de les soutenir comme on peut.
Oui, ça a dû vous faire drôle quand on vous a présenté ce projet. Vous allez dire, mais c'est impossible de faire ça. Et...
Oui, alors tout aux prémices, effectivement, on parlait simplement des caves du château et de la découverte de ces caves. Et puis petit à petit, on a commencé à apprendre qu'il y avait ce projet qui était évolutif. Et récemment, ils sont venus en mairie. Ils sont venus également sur la communauté de communes du Valois pour nous présenter ce projet. Et on s'est dit, waouh! Quel boulot formidable en si peu de temps.
Et quand on y pense, 30 hectares ce château, donc c'était impressionnant. Quand on voit Nanteuil-Audouin maintenant, on a du mal à s'imaginer qu'il y avait ce château ici, là, où on est dans les jardins, si on a bien compris.
C'est, hein, ça. C'est ça, oui, il n'a pas à rougir ce château. Hein. Il fait partie des grands châteaux. Alors effectivement, à côté de nous, on a des châteaux qui se voient et donc du coup, on n'arrive pas à comprendre. Mais quand on parle de 30 hectares, quand on voit la superficie, eh bien oui, Nanteuil, c'est un beau château et il faut redonner son blason.
Voilà. Donc Nanteuil va bien, Oriane, tout va bien?
Oui,
il n'y a rien à signaler, pas d'infos.
Avec ce beau projet, il y a des beaux projets qui se portent. En plus, on a la chance que la médiathèque va se faire également juste aux portes de ces caves. Donc, ça aura toute une histoire également pour pouvoir accueillir du public. Donc, on est très fiers de pouvoir soutenir une belle association.
Voilà, et le patrimoine de Nanteuil-Audouin, comme ça, il y aura une reconstitution qui sera faite même pour les jeunes, si j'ai bien compris. Donc, il y aura un suivi. Voilà.
Ah oui, bah là, ce qu'ils annoncent là, pour fin 2022, avec ces bornes interactives, ça va parler à tous les jeunes, puisque tout le monde est équipé d'un smartphone. Aller venir flasher un code pour voir où se trouve le château, là, c'est formidable. C'est vraiment toucher tout le public et c'est gratuit. C'est ouvert à tous.
Ouais, c'est ça qui est bien.
Et voilà. Et ça aussi, c'est pas donné. Donc ça, vraiment, ça n'a pas de prix et c'est ce qui nous tient à cœur et c'est pour ça qu'on les soutient aussi bien.
Bah, merci, Oriane, de votre témoignage.
Merci, Hervé.
Voilà, je vous en prie. C'était Oriane Grosse, donc adjointe à la mairie de Nanteuil-Audouin, partenaire de ce projet avec l'association Histoire et Archéologie de Nanteuil-Audouin. Bonne écoute sur RVM 93.7. Au revoir.
Grain de sel. Une émission de la rédaction. Grain de sel.